l'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, ils se racontent des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Le 23 mai 2012, le scepticisme et la foi. L'évolution du terme scepticisme, lui-même assez tardif dans la philosophie antique, a fini notamment à travers l'utilisation de la figure de Voltaire par lui donner le sens d'opposition aux croyances religieuses. Dans la version caricaturale de cette acception, M. Homais, l'inérable pharmacien de Madame Bovary, représente l'esprit fort qui prétend ne faire confiance qu'aux certitudes de la raison et de la science. La réalité historique du scepticisme fut tout autre. Carlos Lévy, professeur de langue et littérature latine à l'Université de Paris-Sorbonne, spécialisé dans la philosophie hellénistique et romaine, parlera du scepticisme et de la foi dans ce nouveau numéro de l'Agora des savoirs.
Bien, je voudrais d'abord remercier la ville de Montpellier et dire combien je suis honoré de parler ici et en même temps combien je sens que ma responsabilité est grande. Il n'y a pas de sujet léger, mais il y a peut-être des sujets qui sont plus graves, plus difficiles, plus lourds que d'autres, et je crois que la question des relations entre le scepticisme et la foi est de cela. Alors, c'est une question très complexe dans laquelle je vais essayer de faire preuve d'un peu de simplicité. Et pour cela, je vais partir de quelque chose de tout à fait banal, à savoir d'un dictionnaire, le petit Robert, que tout un chacun a chez lui, moi je l'espère. Et si je cherche le mot scepticisme, je trouve la définition suivante. Doctrine des Pyrrhoniens, des sceptiques grecs, selon lesquels l'esprit humain ne peut atteindre aucune vérité générale et qui pratiquait en toute chose la suspension du jugement. Toute attitude philosophique qui nie la possibilité de certitude. Et c'est suivi d'une citation d'un philosophe aujourd'hui un peu oublié, Jules Lachelier, qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui dit « L'état de scepticisme absolu, s'il était possible, consisterait à nous abandonner au sentiment immédiat que nous avons de notre vie sans y joindre aucune affirmation. » Alors, cette définition qui est donnée par le petit Robert correspond à la conception que quelqu'un d'un beau niveau culturel a du scepticisme. Et pourtant, pour un sceptique, c'est-à-dire pour un spécialiste du scepticisme antique, elle présente un inconvénient majeur qui est de compacter plusieurs siècles d'histoire en quelques lignes et de n'aboutir à une définition qui présente l'apparence de la simplicité qu'en négligeant la profondeur historique de tant de siècles. Contrairement à ce que laisserait penser cet excellent dictionnaire, il n'y a pas une doctrine sceptique, mais des scepticismes qui sont apparus dans l'histoire intellectuelle de l'Occident avec des caractéristiques profondément différentes. Et l'unification, l'idée qu'il y a eu non pas des scepticismes, mais un scepticisme, est apparue de manière tardive. Ma méthode s'inspire de celle de Michel Foucault, de celle de Pierre Hadot, c'est-à-dire considérer les grands concepts de la pensée antique non pas comme des réalités éternelles, des sortes d'idées platoniciennes, mais comme des constructions intellectuelles exprimées, développées sur plusieurs siècles, s'imbriquant parfois les unes dans les autres. Et cela fait que le concept de scepticisme finit par être une sorte d'écran qui rend plus difficile l'exploration de notre objet d'étude. Nous avons besoin de parler de scepticisme, mais en parlant de scepticisme, nous nous privons de cette profondeur historique dont je parlais. Alors, je vais partir du début, c'est-à-dire de Piron, celui qui est considéré, à tort selon moi, comme le fondateur du scepticisme. Je vais demander qu'on projette l'exemplier, en tout cas la première page de l'exemplier. Voilà. Alors, je commencerai par Piron, ensuite je ferai un saut à Rome avec Cicéron, et ensuite j'aborderai ce qui est le grand tournant dans l'histoire du scepticisme, à savoir la confrontation avec le monothéisme, car notre concept de scepticisme est né de cette rencontre improbable, comme on dit aujourd'hui, entre un produit de la pensée grecque, de la culture grecque, et un monothéisme qui, au départ, ne pouvait même pas concevoir ce que l'on entendait par scepticisme. Et j'annonce mon plan. Donc, la rencontre entre le scepticisme et le monothéisme, je l'analyserai à travers deux personnalités fondamentalement différentes, à la fois par leur religion et par leur attitude, c'est-à-dire Philon d'Alexandrie et saint Augustin. Et ensuite, je continuerai jusqu'à la Renaissance avec Montaigne, dont Sabine nous a parlé. Alors, au départ, il y avait Piron. Qui est Piron? C'est un personnage tout à fait marginal, un peintre qui, probablement parce qu'il n'avait pas beaucoup de succès, s'est engagé dans l'expédition d'Alexandre et qui, accompagnant Alexandre en Inde, a déjà eu une première confrontation avec l'altérité sous la forme de ce que les Grecs ont appelé les gymnosophistes, les savants, les sophistes nus, c'est-à-dire les brahmanes, les détenteurs de la science, de la religion indienne, qui se sacrifiaient par le feu, sans un mot, plutôt que d'accepter la conquête d'Alexandre. Et il semble bien que Piron, comme tant d'autres Grecs, ait été frappé par ce spectacle, par la possibilité d'affronter la douleur suprême et la mort sans un mot, dans un état d'indifférence absolue. Le premier scepticisme, le pyrrhonisme, n'est pas une philosophie de la connaissance. Il n'est pas important pour Piron d'entrer dans le détail de ce qu'on appelle la gnoséologie. Et donc, il y a autre chose chez lui, cette autre chose que nous avons dans la première, dans le premier des passages que je vous ai donné, les choses, dit-il, il les montre également indifférentes, immesurables, indécidables. C'est pourquoi ni nos sensations ni nos jugements ne peuvent dire vrai ni tromper. Par suite, il ne faut pas leur accorder la moindre confiance, mais être sans jugement, sans inclination, d'aucun côté, inébranlable, en disant de chaque chose qu'elle n'est pas plus qu'elle n'est, ou qu'elle est et n'est pas, ou qu'elle n'est ni n'est pas. Pour ceux qui se trouvent dans ces dispositions, ce qui en résultera, dit Timon, c'est d'abord l'aphasie, puis l'ataraxie. L'important pour Timon et pour Pyrrhon, son maître, ce n'est pas d'évaluer la connaissance, ce n'est pas d'entrer dans les détours du processus de connaissance, mais de réaliser deux choses. La première, c'est que le monde n'a aucune réalité ontologique, que le monde n'existe pas, que le monde ce n'est qu'un amas d'apparences contradictoires, qu'il n'y a pas de sens du monde. Et face à ce néant ontologique du monde, ce que Pyrrhon propose, c'est une sorte de construction en miroir dans laquelle l'être humain va faire le vide en lui-même, vide de ses affections, de ses pensées, de ses croyances, de façon à opposer à ce néant du monde sa sérénité absolue, sérénité faite de l'éradication de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est sensation, idée, conviction. Une comparaison qui permettra peut-être de mieux comprendre, ou plus exactement, un rapprochement qui est aussi une confrontation avec Albert Camus. Dans le mythe de Sisyphe, Camus parle de ce monde qui n'a pas de sens, de ce monde qui est absurde, mais il oppose à l'absurdité du monde la quête de sens, l'interrogation permanente sur le sens qui est celle de l'être humain. Eh bien, chez Pyrrhon, nous avons le même point de départ, à savoir l'idée que le monde est absurde, que le monde n'a pas de sens, mais la réponse est différente. La réponse n'est pas celle de l'interrogation, comme Camus. Sisyphe est heureux parce qu'il ne cesse de s'interroger et de rechercher un sens. Chez Pyrrhon, c'est simplement le constat de l'absence de sens et l'idée que l'être humain, pour vivre heureux, pour atteindre au bonheur, doit parvenir à l'indifférence absolue. Le premier scepticisme n'est pas un scepticisme de la connaissance, c'est un scepticisme de l'indifférence. Et Pyrrhon allait très loin. Pyrrhon allait très loin. Il n'évitait pas les chariots qu'il voyait arriver sur lui. Il se laissait mordre par les chiens. Il faisait en toute occasion en sorte que le monde n'ait aucune prise sur lui. En toute occasion, rester apathique, c'est-à-dire indifférent. Ce personnage était sans doute perçu dans sa cité comme un marginal. Et pourtant, il y a un détail qui peut nous paraître surprenant. On nous dit que sa cité, qui était la ville d'Élis, sa cité l'avait en grande estime et que pour lui rendre honneur, lui rendre hommage, on vota en considération de lui une exemption d'impôt pour tous les philosophes et de surcroît qu'on le nomma au poste d'archiprêtre. Alors, la question qui se pose pour un esprit contemporain, comment pouvait-on nommer grand prêtre de la cité quelqu'un qui niait l'existence même d'un sens du monde et qui prétendait se libérer de tout affect? Alors, là, nous avons l'un de ces points où nous percevons combien la manière antique de vivre et de penser pouvait être différente de la nôtre. Dans le cadre de la cité antique, ce qui importait avant tout, c'était l'orthopraxie. Non pas la foi, mais l'orthopraxie, c'est-à-dire le fait de se soumettre aux rites, aux croyances religieuses, aux cérémonies de la cité. Si vous ne choquiez personne par des attitudes ouvertement anti-religieuses, si vous participiez à toutes les manifestations religieuses de la cité, nul n'allait se préoccuper de savoir quelle était la profondeur de votre doctrine, ni même si vous en aviez une. Alors, Sabine tout à l'heure a parlé de Socrate. C'est vrai que Socrate a été mis à mort pour effectivement impiété. Bon, mais il faut bien dire que Socrate était un agitateur et que Socrate, par ses multiples discours, donnait prise à l'accusation moins d'impiété que de refus d'orthopraxie, ne pas faire comme les autres. Alors, je maintiens, et peut-être cela pourra faire l'objet de la discussion tout à l'heure, que la question de la foi dans la cité antique n'est pas un véritable problème. Personne n'allait sonder les reins et les cœurs. À cela, dans le cas de Pyrrhon, s'ajoute le fait que, pour lui, dans son acceptation totalement passive du monde, il n'était pas question de prendre position sur le problème des dieux et de la religion. Sur de tels sujets, comme sur tous les autres, il n'était possible que de tenir des discours contradictoires. En revanche, la cité était là, avec ses institutions, ses cultes qu'il fallait accepter tels quels, l'essentiel pour Pyrrhon étant d'éviter le trouble que pouvaient semer dans l'esprit des affirmations dogmatiques au sujet de ce qui existait. Pyrrhon devint donc grand prêtre de sa cité et il y a tout lieu de penser qu'il fut un grand prêtre exemplaire, se gardant bien de changer quoi que ce soit à la tradition dans laquelle il s'insérait, non pas qu'il la crût vraie, mais parce que la mettre en question eût ruiné la paix intérieure à laquelle il aspirait. Puisque rien n'existe réellement, que tout est apparence, et que ce qui paraît être philosophiquement fondé ne correspond qu'à des habitudes, à des conventions, il faut accepter les institutions telles qu'elles existent, y compris la religion, car se révolter, prétendre remplacer un pouvoir par un autre, serait une forme pratique, active, de dogmatisme, tout aussi nuisible que le dogmatisme théorique. Donc, la première rencontre entre ce qu'on appelle le scepticisme pyrrhonien, et je mets des guillemets à scepticisme, et la religion, la première rencontre aboutit à un résultat paradoxal qui est celui d'une parfaite entente. D'une parfaite entente, je dirais, par défaut, puisque la cité ne demandait pas à Pyrrhon de croire vraiment au dieu, et que Pyrrhon acceptait la cité telle qu'elle était. Alors, cette entente, cette articulation entre des contraires qu'on aurait pu imaginer opposés l'un à l'autre, va-t-elle résister à l'histoire? Et ce que nous allons voir, qui est très surprenant, c'est que, en principe fait pour se combattre, eh bien, le scepticisme et la foi vont le plus souvent très bien s'entendre. Alors, mon deuxième moment, c'est celui de la Nouvelle Académie. Je n'entre pas dans le détail, je dirais que la Nouvelle Académie est une évolution sceptique de l'école platonicienne. Et dans le platonisme, vous connaissez tous l'image de la caverne. Nous sommes tous dans une caverne et il y a quelques raies de lumière qui permettent de voir des ombres. Eh bien, dans le scepticisme de la Nouvelle Académie, il n'y a plus du tout de lumière. Nous sommes tous dans une caverne, mais dans une caverne où on ne voit strictement rien, absolument rien. Et ce scepticisme de la Nouvelle Académie, lui, va être un scepticisme fondé sur la connaissance, sur la critique des théories de la connaissance et sur l'évaluation négative des résultats de la connaissance. Alors, tout cela, nous le trouvons dans un ouvrage de Cicéron qui s'appelle le De Natura Deorum, qui comporte trois livres. Dans le premier, c'est la théorie épicurienne des dieux, à savoir des dieux composés d'atomes, des dieux matériels, des dieux qui ont une forme humaine, qui vivent heureux dans des intermondes, des dieux qui conversent agréablement entre eux, en grec bien sûr, et qui ne se soucient absolument pas des êtres humains, des affaires humaines. Alors vous me direz, quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt pour les épicuriens d'avoir de tels dieux? C'est que les dieux sont des modèles de bonheur. Il y a dans la pensée antique, et notamment dans la pensée hellénistique, cette obsession du bonheur que nous avons peut-être, et sans doute à tort, oubliée, ou à laquelle nous avons donné des formes peut-être peu heureuses. Alors, premier livre, les épicuriens. Dans le deuxième, il y a les stoïciens, l'idée pré-spinoziste que le dieu c'est la nature, c'est la raison immanente au monde et surtout qu'il n'existe aucune transcendance. Et le troisième c'est l'académicien Cotta qui est un haut personnage, un haut personnage de la République romaine qui critique avec énormément d'acribie, de sévérité, la théorie des stoïciens et des épicuriens et qui donc va mettre en doute l'existence des dieux en articulant son discours sur quatre questions. Premièrement, les dieux existent-ils? Deuxièmement, quelle est leur nature s'ils existent? Troisièmement, gouvernent-ils le monde? Et quatrième et dernière question, prennent-ils soin des affaires humaines? Et sur tous ces points, les stoïciens répondaient dogmatiquement oui. L'académicien, lui, va réfuter ses convictions, non pas dogmatiquement, mais dialectiquement, pour montrer que les preuves apportées étaient insuffisantes. Mais ce que nous avons de tout particulièrement intéressant, c'est cette fois-ci l'articulation non pas entre un discours, une pensée de l'indifférence et l'orthopraxie, mais l'articulation entre le doute extrême, le doute intellectuel exacerbé et l'orthopraxie. C'est ce que nous avons dans ce dernier, dans ce fragment du dernier livre de la nature des dieux. Jamais les discours de qui que ce soit, savant ou ignorant, ne me feront abandonner les croyances que j'ai héritées de mes ancêtres sur le culte des dieux immortels. Mais quand il s'agit de religion, mes maîtres sont, suite une liste de grands personnages de l'État romain. Il s'agit donc d'affirmer que l'être humain, en quelque sorte, va penser selon deux orientations, une orientation traditionnaliste d'acceptation incontestée de la tradition, de ce qu'ont transmis les ancêtres en matière de religion, et de l'autre, l'esprit qui s'interroge, qui ne cesse de se poser des questions sur ce que sont les dieux et sur ce que font les dieux. Alors, pour nous, évidemment, on se dit, mais comment cela peut-il fonctionner? Si les dieux n'existent pas, quel peut être le sens de la tradition religieuse? Ce qui sous-tend le discours, c'est que on ne peut pas savoir si les dieux existent ou s'ils n'existent pas. Il ne peut pas y avoir de réponse définitive sur un tel problème. Alors, la tradition, elle, affirme, pose l'existence des dieux. Nous n'avons aucun argument intellectuel qui soit suffisamment fort pour contrecarrer cette croyance et cette tradition. Il s'agit donc d'articuler des questions, des incertitudes sur une tradition qui ne peut pas être rejetée parce que nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour le faire. Voilà où en on est à la fin de la République romaine, où l'on peut dire que le scepticisme païen va se caractériser par la prise en compte de deux réalités. Première réalité, désaccord des êtres humains sur l'existence des dieux, sur leur nature, sur leur pouvoir. Deuxième réalité, l'existence universelle de croyances, de lieux de culte liés aux dieux. Faire preuve de dogmatisme en prétendant renverser intellectuellement une réalité factuel, ce serait quelque chose d'insupportable, d'inconcevable. Donc, la solution à laquelle arrive le paganisme, c'est de respecter la tradition tout en évitant le dogmatisme en matière de croyance. Alors, la solution païenne, solution évidemment nuancée selon les écoles et selon les époques, était évidemment inacceptable, au moins dans le principe, dans une perspective monothéiste. Lorsque Dieu est une personne, lorsqu'il s'adresse personnellement à chaque être humain, il ne peut être question d'ignorer cette parole en disant que l'on ne peut savoir si elle est vraie ou fausse, tout en suivant passivement les cérémonies du culte. En principe, la révélation monothéiste aurait dû pulvériser, faire imploser le scepticisme. En effet, de deux choses l'une, ou l'on accepte la révélation, et dans ce cas il n'est plus question de dire que le monde n'a pas de sens, que tout est contradictoire, ou on la refuse et l'on a au moins une certitude négative. Et c'est là que les choses ont été beaucoup plus compliquées qu'on ne pourrait le penser a posteriori. Alors, le premier à avoir affronté ce problème, c'est Philon d'Alexandrie, qui a vécu au 1er siècle de notre ère, à Alexandrie, dans un monde très dur, très complexe, avec des oppositions ethniques entre les Grecs, les Juifs, les Égyptiens, tout cela sous l'œil parfois goguenard et parfois sévère du conquérant romain. Et Philon prétend faire la synthèse en lui de deux mondes, non pas le monde du paganisme, mais le monde de l'hellénisme et celui de la révélation juive, de la révélation monothéiste, qu'il ne connaissait d'ailleurs que dans le texte grec, puisque il est à peu près établi qu'il ne connaissait pas l'hébreu ou qu'il ne connaissait que quelques mots d'hébreu. Alors, la position de Philon, elle va se caractériser par deux orientations. La première est celle de la condamnation. Le sceptique, c'est une horreur. Et la deuxième orientation, c'est la récupération du scepticisme qui va être si féconde dans l'histoire de la pensée occidentale. Alors, je n'insisterai pas sur toutes les approches négatives du scepticisme. Pour Philon, tout a un sens et tout s'explique métaphoriquement, allégoriquement. Alors, le sceptique, il va être rattaché, il va apparaître comme la résurgence de deux figures fondamentales, l'une appartenant au monde de la Bible, l'autre au monde de la culture grecque. Le sceptique, pour Philon, c'est le descendant, c'est l'héritier d'Ismaël et du sophiste. Commentant Genèse 16, 12, où il est dit au sujet d'Ismaël, le fils aîné d'Abraham, je cite, « Celui-là sera un onagre d'homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, il s'établira à la face de tous ses frères. » Pour Philon, le sceptique, c'est donc une figure historique de l'archétype présent dans la Bible, Ismaël, et présenté comme quelqu'un de fondamentalement agressif en lutte avec tous les autres. La deuxième identification, c'est celle du sophiste. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme le sceptique, pratique l'isosthénie, c'est-à-dire la confrontation des opinions contraires sans choix d'une opinion préférentielle. Alors, cela, nous le trouvons tout au long de l'œuvre philonienne, et notamment dans le De Congressu 52, où il définit 3 degrés d'humanité. Premier degré d'humanité, Israël, à qui il appartient de voir le meilleur, je cite, l'être qui est réellement. Donc le peuple de la transcendance et de la révélation. Deuxième niveau, ceux qui contemplent et qui admirent la régularité du ciel sensible. Ce sont à la fois les Chaldéens et les Stoïciens, tous ceux qui sont capables de voir la beauté, la régularité du monde, mais sans concevoir un Dieu transcendant, auteur de ce monde, créateur de ce monde. Et tout en bas de la hiérarchie de l'humanité, selon Philon, il y a le sceptique, dont il dit qu'il consume tout son temps en raisonnement sophistique et pointilleux et ne fait qu'ergoter. C'est un vendeur de paroles. Donc, condamnation très dure, condamnation définitive du sceptique qui constitue en quelque sorte la lie de l'humanité, en tout cas de l'humanité intellectuelle. Ça, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'attendre à ce qu'un monothéiste n'accueille pas le scepticisme avec faveur. Et le deuxième niveau est celui de ce que j'appelle, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, la récupération. La récupération à travers notamment l'interprétation philonienne du sacrifice d'Isaac, dont vous avez maintenant le texte sur l'écran, et vous allez voir comment cela se fait. Un exemple. Voici l'esprit, souffle très chaud et embrasé. Voici également les intelligibles, en quelque sorte les matériaux. Où est le troisième, l'acte de pensée? Ou encore, voici la vue, voici la couleur. Où est l'acte de voir? Et d'une manière générale, voici la sensation, le critère, mais aussi les sensibles, les matériaux, l'acte de sentir. Où donc est-il? La réponse donnée à cette question est adéquate. Dieu se pourvoira, car le troisième terme est l'œuvre propre à Dieu. C'est grâce à sa prudence que l'esprit saisit, que la vue perçoit et que toute sensation est éprouvée. Or, on découvre un bélier, c'est-à-dire une raison immobile et suspendue. La meilleure victime, c'est l'immobilité et la suspension du jugement sur les points où les preuves font totalement défaut. On peut déclarer seulement ceci: Dieu verra. L'univers lui est connu, il l'éclaire d'une lumière très éclatante, à savoir lui-même. Le monde créé ne peut déclarer rien d'autre. Sur lui sont répandues d'épaisses ténèbres, et dans les ténèbres, il est prudent de rester tranquille. Alors, en quoi y a-t-il récupération du scepticisme? Dans le fait que Philon, comme les sceptiques, interprète le monde comme un monde couvert de ténèbres. C'est une métaphore fréquente chez les sceptiques, et notamment dans la Nouvelle Académie. Deuxièmement, Philon fait sien le mot d'ordre, le concept central du scepticisme, qui est celui de l'époké, de la suspension du jugement, c'est le leitmotiv du scepticisme. Donc, ces deux thèmes centraux de la pensée sceptique sont repris par Philon. Et en même temps, évidemment, ils sont dépassés. Ils sont dépassés parce que ce que l'épisode du sacrifice d'Isaac montre pour Philon, c'est l'existence d'une absence, d'une ouverture vers la transcendance. Il manque quelque chose dans ce sacrifice, il manque quelque chose, et c'est précisément de ce manque que Philon va donner une interprétation lorsqu'il fera du bélier le symbole de l'époké, c'est-à-dire de la suspension du jugement. En d'autres termes, l'épisode du sacrifice d'Abraham montre à l'homme qu'il est en attente, en espoir, en ouverture, et en même temps, il fait que l'homme doit faire le sacrifice de sa raison. Le sacrifice de sa raison, en ce sens qu'il doit renoncer à tout comprendre. Il doit renoncer à tout comprendre, tel est le véritable sacrifice. Renoncer à tout comprendre, cela signifie qu'il doit renoncer à avoir une connaissance de Dieu, et il lui faut pratiquer la théologie négative, c'est-à-dire admettre que notre raison doit s'arrêter aux portes de la connaissance de Dieu, à ce que Philon appelle les puissances de Dieu. Un texte me paraît très significatif, je ne l'ai pas donné, mais je vais le lire. Le sage souhaite connaître le souverain de l'univers, et quand il marche sur le chemin qui passe par la science et la sagesse, il rencontre d'abord des logoi divins auprès desquels il fait une première halte, et bien résolu à poursuivre le reste du chemin, il suspend sa marche. Car les yeux de sa pensée se sont ouverts et il a vu de façon plus pénétrante qu'il s'est préparé en athlète à la poursuite d'un objet difficile à capturer qui recule toujours, se retire au loin et laisse ses poursuivants en arrière, en mettant entre eux et lui une distance infinie. Le sage, c'est l'homme qui est en quête, qui est en marche, qui espère atteindre son but, celui de la connaissance de Dieu. Mais la sagesse, ce n'est pas seulement la marche, c'est le savoir s'arrêter, comprendre qu'il s'est préparé en athlète à la poursuite d'un objet difficile à capturer et qui recule toujours. L'expression est évidemment admirable. À partir de là, dans cette première rencontre du monothéisme et du scepticisme grec, Philon va inaugurer en quelque sorte ce que j'appellerais un scepticisme monothéiste, un scepticisme qui se définit par la renonciation, de la raison à connaître Dieu, et en même temps par le combat contre la raison chaque fois qu'elle prétend exister par elle-même. Il y a donc non pas une dévalorisation de la raison, mais en même temps une utilisation très efficace du scepticisme pour combattre l'arrogance de la raison. C'était la première définition d'une attitude monothéiste à l'égard du scepticisme. Et la deuxième, très différente, va survenir avec saint Augustin. Je n'entrerai pas dans tous les détails de l'itinéraire complexe qui ont conduit saint Augustin à la conversion et notamment la crise sceptique qu'il vécut en 384-85 au terme de la période manichéenne. Je lis quelques lignes. C'est ainsi que, doutant de tout, à la manière des académiciens tels qu'on les interprète, ballotté à tout vent, je décidai qu'il me fallait au moins abandonner les manichéens. Je ne croyais pas devoir, dans cette période même de doute, demeurer dans une secte à laquelle je préférais déjà un certain nombre de philosophes, à ces philosophes pourtant, à qui était extérieur le nom du Christ, je refusais de leur confier les langueurs de mon âme. Aussitôt, et là encore, c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait attendre, aussitôt après sa conversion, après cette illumination, cette fulgurance de la conversion, saint Augustin s'enferme avec sa mère, avec ses amis à Cassis Iacum, et on aurait pu penser qu'ils allaient se consacrer à des discussions théologiques. Eh bien, pas du tout. Ils vont discuter de philosophie comme s'il fallait régler le compte de la philosophie avant d'entrer dans une vie totalement, profondément chrétienne. Et le contrat académicos, c'est précisément le dialogue, les dialogues, puisqu'il y a trois livres, dans lesquels Augustin dit « Maintenant, cela suffit, il faut régler son compte au scepticisme. » Et son attitude va être très différente de celle de Philon. Tout d'abord, le contrat académicos est une œuvre étrange, puisque c'est l'œuvre de quelqu'un qui vient de se convertir, mais œuvre dans laquelle le Christ est quasiment absent, très peu mentionné. Et très peu mentionné pourquoi ? Très peu mentionné parce que Augustin est persuadé que la raison humaine peut vaincre le scepticisme par elle-même. Que la raison est assez forte pour venir à bout du doute absolu. Je dirais que, d'une certaine manière, le principe du contrat académicos n'est pas très différent du principe des méditations cartésiennes. On s'enferme et on va affronter le problème une fois pour toutes. Affronter le problème une fois pour toutes, cela signifie quoi ? Cela signifie trouver le point fixe qui échappera au doute universel. Le point fixe que personne ne pourra ne pas admettre. D'où tous les rapprochements qui ont été faits entre l'Augustin du contrat académicos et le cogito cartésien. C'est une question qui est très controversée, pour laquelle il y a en particulier un excellent livre d'Emmanuel Bermond. Dans ce combat presque titanesque contre le scepticisme, Augustin arrive à la fin du dialogue à la conclusion que le scepticisme lui échappe encore. Il y a un moment où il a l'impression que ça y est, qu'il est arrivé, qu'il a vaincu. Et au fond de lui-même, il sait que le scepticisme, il compare le scepticisme à Protée, c'est-à-dire cette divinité changeant tout le temps de forme et qu'il était si difficile d'attraper dans l'Odyssée. Alors, à la fin, il va y avoir ce qui me paraît tout à fait fascinant, à savoir le coup de force de la raison. La raison ne pouvant pas venir à bout du scepticisme par son seul fonctionnement intellectuel, va décider un coup de force qui est un passage vraiment essentiel pour la pensée augustinienne que vous avez dans le Contrat Academicos 3, 20, 43. Voilà ce dont je me suis persuadé pour le moment au sujet des académiciens. Si c'est faux, peu m'importe. Si c'est faux, peu m'importe. À moi pour qui il suffit désormais de ne pas juger que l'homme est incapable de trouver la vérité. Or, quiconque estime que les académiciens ont eu cette opinion. Alors, de quoi s'agit-il ? À la fin du Contrat Academicos, Augustin, pour rendre sa victoire définitive, invente un mythe. Le mythe selon lequel les académiciens, c'est-à-dire les sceptiques, n'auraient pas été de véritables sceptiques, que c'était des dogmatiques ésotériques qui révélaient des dogmes platoniciens dans le secret de leur école à quelques individus choisi. Alors, c'est quand même assez grave. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il dit, si c'est faux, peu m'importe. Si c'est faux, peu m'importe. Autrement dit, la vérité est ici subordonnée à une fin qui est de ne pas admettre que la raison soit incapable de connaître la vérité. Alors, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce texte, sur ce passage de saint Augustin. Je voudrais simplement montrer à quel point la direction philonienne et la direction augustinienne sont radicalement opposées. D'un côté, l'acceptation de l'incapacité de l'être humain, de sa raison, à connaître la vérité. De l'autre, l'utilisation de tous les moyens pour donner à la raison la capacité de connaître le vrai. Il y a un passage de saint Augustin dans l'Enchiridion, le manuel dans lequel il dit que il fallait vaincre les sceptiques utique, par tous les moyens, par tous les moyens. Alors, à partir de là, mais je m'aperçois que je suis au bout de mon heure, alors je ne sais pas très bien ce que je dois faire, très sceptiquement, que dit... Voilà, donc, à partir de là, la pensée occidentale va être prise, me semble-t-il, d'autant plus que je dois dire que la position augustinienne a beaucoup varié et au fur et à mesure qu'il a progressé en âge, il est allé vers une dévalorisation toujours plus grande de la philosophie et que dans les Retractationes de la fin de sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il revoit toute l'œuvre qu'il a derrière lui, eh bien, il dit, mais j'ai vraiment été sot de consacrer tant de temps de ma vie à la réfutation du scepticisme. La foi se suffit à elle-même. La foi se suffit à elle-même. Et donc, il y a de sa part une sorte de renonciation, l'attitude qui était la sienne dans le contrat académicos, mais le contrat académicos est demeuré comme une œuvre majeure de la pensée occidentale. Alors, je voudrais passer très rapidement, puisque je n'ai plus beaucoup de temps, à la Renaissance et à Montaigne. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de l'apologie de Raymond Sebonde, de ce texte vertigineux, considéré comme le sommet du scepticisme de la Renaissance et qui ne cesse de donner lieu à de nouveaux débats. Et comme tout dans le scepticisme est paradoxal, Montaigne a commencé par vouloir réfuter ceux qui reprochaient à Raymond Sebonde d'avoir voulu démontrer la foi chrétienne, je cite, par raison humaine et naturelle, et ensuite il a lui-même entrepris la dévalorisation de la raison humaine, entreprenant de fouler aux pieds, je cite ici encore, l'orgueil et l'humaine fierté, en montrant que l'homme, contrairement à ce qu'il croit, n'est pas supérieur aux animaux. Ensuite, en montrant que la science est non seulement vaine, mais nuisible au bonheur et à l'éthique. C'est un scepticisme dont l'un des grands historiens de la pensée sceptique, Popkins, dit qu'il procède par vagues, avec à l'occasion des pauses pour digérer les différents niveaux du doute. Et le scepticisme de Montaigne est tellement tendu, tellement traversé de contradictions, qu'il a été tantôt interprété comme un sceptique dont la foi ne serait que superficielle, tantôt comme un authentique croyant mettant le doute systématique au service de sa foi. La première loi, dit-il, que Dieu ait donnée à l'homme est celle de pure obéissance. Ce fut un commandement nu et simple où l'homme n'eut rien à connaître et à causer. Ce qui est très frappant, c'est que l'idéal pyrrhonien, et ça a été exploité par un grand penseur du scepticisme contemporain, Marcel Conche, l'idéal pyrrhonien de l'aphasie et de l'obéissance passive au monde des apparences se trouve à la fois repris et détourné de son sens, puisqu'il ne correspond pas, comme pour Pyrrhon, à l'absence de sens du monde, mais bien à l'existence d'un sens unique, celui que Dieu lui a imprimé. Nous voyons le scepticisme qui demeure, mais qui demeure à l'opposé de lui-même, non pas dans la confrontation avec l'indifférence du monde, mais je dirais avec le trop-plein de sens du monde, l'absolu sens du monde. Nous n'avons que du vent et de la fumée en partage, dit Montaigne, mais ce vent, cette fumée, renvoie à l'Ecclésiaste, puisque le fameux « vanité des vanités », c'est « buée des buées » dans le texte hébraïque, renvoie au moins autant à l'ecclésiaste qu'Apiron ou à Sextus Empiricus. Et lorsqu'il évoque comme modèle de vie les femmelettes, le mot est de lui, de son village, dont il vante la vie égale, douce et constante, Montaigne leur attribue d'emblée ce qui, dans le pyrrhonisme, correspond à la finalité du scepticisme, c'est-à-dire cette existence d'acceptation du monde. Le thème de l'acceptation du monde est ainsi déplacé, transféré dans une pensée chrétienne et catholique. En quelque sorte, dans le scepticisme de Montaigne, il s'agit de substituer au conformisme religieux, qui était l'un des éléments du comportement sceptique originel, l'existence, l'expression de la foi chrétienne. Il ne s'agit plus de se débarrasser du scepticisme par tous les moyens, utique, comme le voulait Augustin, mais de montrer par tous les moyens qu'il n'est pas incompatible avec la foi, ou plus exactement, qu'il va permettre, par le refus des vaines croyances, des engagements dogmatiques, de faire de l'esprit humain, je cite, cette carte blanche, c'est la tabula rasa, préparée à prendre du doigt telle forme qu'il, c'est Dieu, lui plaira y graver. Et pour terminer avec Montaigne, je citerai ici ce qu'il écrit à une dédicataire qui était probablement Marguerite de France à propos du scepticisme. Ce dernier tour d'escrime ici, il ne faut l'employer que comme un extrême remède. Le scepticisme est un extrême remède. C'est un coup désespéré auquel il faut abandonner vos armes pour faire perdre à votre adversaire les siennes, et un tour secret duquel il se faut servir rarement et réservément. C'est une grande témérité de vous perdre vous-même pour perdre un autre. Alors, je pourrais continuer évidemment longtemps et y passer la nuit. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord. Je ne conclurai pas, parce qu'on ne conclut pas un exposé, une conférence sur le scepticisme. Je dirai simplement, je lirai cette phrase de Pascal, la cabale pyrrhonienne, il appelle ainsi le scepticisme, la cabale pyrrhonienne, qui consiste en cette ambiguïté ambiguë. La formule est absolument merveilleuse, cette ambiguïté ambiguë est dans une certaine obscurité douteuse, dont nos doutes ne peuvent ôter toute la clarté, ni nos lumières naturelles enchasser toutes les ténèbres. Et je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Voilà, merci.
L'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.